Vous êtes sur RTL.
Nacia.fr.
Jusqu'à 10h sur RTL, nous voilà bien avec Flavie Flamand.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. En ces temps troublés, je vous espère en forme et paisible. Vous le savez, nous créons chaque samedi une bulle de bonne humeur et de conseils pratiques de 9h15 à 10h sur RTL. Et en cette veille de journée mondiale des droits des consommateurs, nous vous avons concocté une émission sur mesure. Cette semaine, en pleine crise du coronavirus, on teste le remboursement des voyages, des matchs, des concerts, des spectacles. Quels sont nos droits et comment ça marche? Réponse dans un instant avec Armel Lévy, journaliste au service éco-conso d'RTL. Les cosmétiques déstockés sont plébiscités par les consommateurs. Mais est-ce vraiment un bon plan? D'où viennent ces produits? Patricia Le Chevalier, journaliste à Capital sur M6, a mené l'enquête. Bonjour Patricia.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Dis-moi, quels sont tes ustensiles? Je te dirai comment tu cuisines. Quels sont ces fameux ustensiles indispensables? Ceux dont nous n'avons vraiment, mais alors vraiment pas besoin. Bonjour Sonia Esgulian.
Bonjour Flavie.
Merci d'être là. Vous nous dévoilerez toutes les astuces et vous nous permettrez donc de nous alléger. Avec les annulations et les reports de spectacles, matchs, concerts, vacances, déplacements, on fait le point sur nos droits au remboursement. Bonjour donc Armel Lévy.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste, je le disais, au service éco-conso d'RTL. Alors, on va parler d'abord des voyages. Concernant ces fameux voyages pour les séjours dans les pays dits à risque, si c'est l'agence qui annule, on est remboursé sans souci?
Alors oui, dès lors que c'est le professionnel qui prend l'initiative, il n'y a pas de problème. Il y a un remboursement intégral et automatique du billet. Mais comme c'est un cas de force majeure, ce coronavirus...
Ouais.
Il n'y aura pas de droit à des dommages et intérêts. Le remboursement ne doit donc pas poser de problème. Après, si vous êtes passé par une agence de voyage, vous pouvez être remboursé, mais si vous le souhaitez, vous pouvez reporter le séjour à une date ultérieure ou demander de partir quand même en choisissant une autre destination.
Mais alors, si c'est moi, par exemple, qui souhaite annuler, non pas reporter, mais annuler, comment ça se passe?
Alors, si c'est vous, le voyageur, qui décidez d'annuler votre séjour, achetez sur Internet ou en agence physique, hein, c'est la même chose. Mmh. Il faut mettre en avant les risques sanitaires, les risques inhérents au coronavirus, à la propagation actuelle, au fait que de jour en jour cela évolue, et cela peut avoir des incidences sur le bon déroulement du séjour. En mettant en avant l'ensemble de ces éléments, le voyageur a droit au remboursement.
Armel Lévy, si on annule un séjour vers une zone qui n'est pas à risque, encore je dirais, ça marche aussi?
Alors là, ce sera bien plus compliqué. La réglementation prévoit la possibilité pour le voyageur d'obtenir le remboursement s'il y a des circonstances particulières sur place qui vont avoir une incidence sur le bon déroulement de votre voyage. Un tremblement de terre, un virus, Zika, le chikungunya, ou quelque chose
de... Tous ces
de
petits noms sympas.
Ouais. Donc s'il n'y a rien... il y a peu de chances d'obtenir le remboursement intégral du voyage. Il y aura des pénalités, celles qui sont prévues au contrat.
D'accord, mais alors si la zone devient à risque par la suite, est-ce qu'on a un recours dans ces cas-là?
Eh bien là, ce sera des négociations avec l'agence. En principe, elle va regarder ce qui se passait au jour de l'annulation et non pas par la suite. Mais on peut annuler jusqu'à la veille ou le matin même du départ. La précaution serait d'attendre même une date proche de celle du départ pour pouvoir utiliser le motif du coronavirus.
Alors, on passe au transport. Pour les transports, si c'est la compagnie aérienne qui annule le vol, là j'imagine qu'on est automatiquement remboursé.
Absolument. Une réglementation européenne prévoit qu'en cas d'annulation de vol par une compagnie aérienne, c'est un remboursement automatique. La seule particularité avec ce coronavirus, notamment si c'est une destination touchée par le virus, c'est que la compagnie ne devra pas payer d'indemnité complémentaire ni de dommages à intérêt. Je vous rappelle qu'en principe, lorsqu'une compagnie aérienne annule un vol, elle doit verser des indemnités comprises entre 250 et 600 euros aux passagers. Et là, effectivement, elles n'ont pas versé ces sommes.
Alors, si le vol est maintenu dans une zone à risque, mais que moi, je refuse de prendre l'avion et que je préfère annuler, c'est possible?
Alors, non. Dans cette hypothèse, cela va dépendre des conditions générales des ventes des billets. Si le billet est non annulable, non échangeable, non modifiable, il y a des pénalités. Alors, le voyageur peut tout perdre. Mais il faut négocier avec la compagnie aérienne. Il y a des compagnies aériennes qui adoptent une démarche très vertueuse en ce moment. Intelligente, on le voit, hein, c'est le cas d'Air France, parce que la peur, ça se comprend. Et donc, des compagnies prennent les devants, procèdent au remboursement ou report sans frais. Vous pouvez réserver maintenant votre voyage et le modifier sans frais pour voyager en toute sérénité. Par contre, d'autres compagnies low cost ont une logique beaucoup plus dure en disant l'avion décolle et il atterrit, donc on ne rembourse pas. Les grands croisiéristes, c'est la même chose.
Oui.
Pour l'instant, ils ont une attitude plutôt compréhensive. Mais effectivement, ça dépend de la politique, de la fidélité qu'on veut récompenser ou pas.
Dans un lieu qui n'est pas à risque, j'imagine qu'on oublie le remboursement direct.
Ah oui, ouais. Direct.
D'accord, bah, comme ça la réponse est claire. Le train, parce qu'on parle de l'avion, mais le train il est concerné aussi.
Oui, alors la SNCF voit circuler des trains quasiment vides. Elle a adopté elle aussi une démarche commerciale intelligente. Les clients peuvent jusqu'au 30 avril annuler ou reporter sans frais leur voyage jusqu'au départ du train. C'est un geste commercial, hein, puisque tant que le train roule, il n'y a pas de remboursement possible en théorie. Mmh. Là, elle fait preuve de souplesse.
Alors, vous êtes venue en train, Sonia Esguignon. On salue votre venue hein, dans notre studio à Neuilly-sur-Seine.
Je me sentais un petit peu seule.
Ah, ouais, c'est ça, il n'y avait personne.
Bah, pas grand monde.
Voilà. Et vous avez pensé à un moment donné, justement, annuler ou pas?
Non, parce que je ne vois pas vraiment le risque. En fait, je pense que le train est soigneusement nettoyé, j'imagine même désinfecté. Et puis, voilà.
Vous êtes en confiance, quoi. Les demandes de remboursement, elles sont actuellement possibles jusqu'à quelle date? Parce qu'on ne sait pas comment ça va tourner, cette histoire, Armelle.
Eh bien, jusqu'au 30 avril, vous pouvez demander un remboursement. Mais après, ça pourra évoluer, hein, évidemment.
D'accord. On parle des spectacles?
Oui.
Hein, parce que c'est un monde en souffrance, hein, le spectacle vivant. Je dirais, il y a de nombreux concerts, des spectacles, des matchs qui sont annulés ou qui sont joués à huis clos. On l'a vu il y a quelques jours, hein, avec la victoire du PSG. Ça n'a pas empêché le PSG de gagner. Donc ça, c'est quand même extraordinaire. Est-il possible de se rembourser nos billets? Et si oui, on fait comment, Armelle?
Alors, c'est du cas par cas. La réglementation donne la possibilité de reporter une manifestation sportive ou culturelle. Mais alors, si un match de foot, par exemple, en Ligue 1, oui, est reporté au-delà de la date du championnat, ça devient une rencontre amicale. Cela change la nature de la rencontre. Là, vous pouvez obtenir un remboursement. Et donc, ça va être à chaque fois une analyse pour savoir quelles sont les conséquences du report sur l'intérêt de la manifestation. Prenons l'exemple d'un concert. Qu'il soit en mars ou en avril, il est reporté. Cela ne change pas la nature de la manifestation. Donc, vous ne pouvez pas obtenir un remboursement. C'est différent. Se pose aussi la question pour le marathon de Paris qui est reporté en octobre. Est-ce que ce déplacement en fin de saison des marathons, 3 semaines après le marathon de Berlin qui est très prisé, est-ce que c'est vraiment sans incidence? Les organisateurs ne veulent pas rembourser. Ils se montrent très fermés. Ils disent que vous pourrez courir en octobre avec un maillot dans Paris. Mais juridiquement, la question se pose. Est-ce que les associations de consommateurs comme UFC Que Choisir vont s'opposer à cette décision? En fait, elles estiment que c'est pas du tout la même nature de manifestation, que ce soit au printemps ou à l'automne.
Alors, deux remarques. Hein, ça va nous permettre, Sonia Esguignon, de nous entraîner hein, pour le prochain marathon, parce qu'il est reporté, donc on aura un petit peu plus de temps pour le faire. Voilà. Et la deuxième remarque, je l'ai oubliée. Alors, deux remarques. Ça va nous laisser le temps, effectivement, Sonia Esguignon, de nous entraîner parce que le marathon donc, est reporté. Voilà une bonne nouvelle, Sonia. Et puis, la deuxième remarque, c'est ce qui est valable aujourd'hui. Bien évidemment, est amené peut-être à évoluer, Armelle Lévy, en fonction de la crise hein, et de l'ampleur de la pandémie. On n'a pas fini de tout vous dire sur les remboursements de spectacles dans cette période houleuse de coronavirus. On se retrouve tout de suite sur RTL.
Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand.
Pendant les jambes.
Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
Ce matin jusqu'à 10h, en compagnie de Patricia Le Chevalier, journaliste à Capital sur M6, on va parler des cosmétiques déstockés. Est-ce que c'est vraiment un bon plan? Et puis Sonia Esguignon, elle est cuisinière. Et puis un jour, elle nous a dit en venant dans cette émission, faudrait peut-être qu'on parle des ustensiles de cuisine parce qu'il y a plein de gens qui ont plein de choses qui ne servent à rien dans leur cuisine. Donc Sonia, vous allez nous permettre de nous alléger.
Rendez-moi ma tendresse, rendez-moi mon passé, rejouez-moi cette pièce ou remboursez.
Serge Reggiani, petit clin d'œil ce matin pour parler des remboursements en pleine crise du coronavirus. On s'intéresse justement au remboursement des séjours, des transports, on l'a entendu, et des spectacles avec vous, Armelle Lévy. Vous êtes journaliste service éco-conso d'RTL. On disait que les spectacles, c'est vraiment presque du sur-mesure hein, en fonction de la nature du spectacle. Les dépenses liées au déplacement, comme le train ou l'hôtel, est-ce que c'est pris en charge par un organisateur?
Non, le cas de force majeure que constitue le coronavirus fait que tous les frais à essence, autoroute, billets de train, hôtel, ne sont pas pris en charge par personne. Donc effectivement, c'est perdu.
Alors, je pense à ceux qui nous écoutent depuis la province et qui avaient prévu des spectacles à Paris. Là, ils peuvent s'asseoir, hein, a priori, sur ces fameux frais de déplacement.
Oui, c'est pas possible d'être remboursé pour ces frais annexes.
Si le spectacle est maintenu, mais qu'on préfère finalement rester chez soi parce qu'on a peur.
Alors là, la plupart du temps, le billet n'est pas annulable, pas remboursable. En revanche, vous pouvez revendre votre billet. Il y a des bourses de revente, mais le billet ne sera pas remboursé par l'organisateur.
D'accord, ok. Quid de l'assurance annulation? Parce qu'on en a parfois quand on prend des places, non?
Oui, mais alors chaque assurance a sa politique. Il faut se concentrer sur les exclusions de garantie pour savoir s'il y a une prise en charge. Mais ce ne sera jamais, jamais un remboursement à 100%. Il y a toujours une franchise. Cela reste aussi le parcours du combattant pour se faire rembourser économiquement. De toute façon, ces assurances n'ont pas intérêt à prendre en charge des risques systémiques, des risques de pandémie.
Merci en tout cas de nous avoir éclairé de la sorte. Armelle Lévy, vous restez avec nous. Alors, maintenant qu'on a fait le point sur la situation des remboursements possibles, on va parler maintenant esthétique. Oui, tiens, non, on va surtout parler économie, je dirais, puisque on nous propose régulièrement des cosmétiques qui sont déstockés. Patricia Le Chevalier, merci d'être avec nous. Vous
Bonjour,
êtes journaliste à Capital sur M6. C'est quoi en fait le déstockage?
Alors, le déstockage, ça veut dire vider les stocks. Donc, ça peut être les stocks des supermarchés. Par exemple, des produits qui se vendent mal en tournage. Moi, je suis tombée sur des gels douches pistache châtaigne.
Oui,
donc ce parfum-là, a priori, ça n'a pas plu.
Allez comprendre pourquoi.
On se demande. Ça peut être aussi les fins de promotion en supermarché. Vous avez un lot 3 pour le prix de 2.
Oui, les têtes de gondole, quoi.
Voilà, la promo s'arrête le 20. Et bien, le 21, le supermarché envoie ça au fabricant qui l'écoule à son tour sur le réseau du déstockage. Ça peut être une surproduction aussi en usine, un changement de packaging ou alors le logo qui change un petit peu. Et tout ça, ça part en déstockage.
D'accord, ok.
Donc, c'est une pratique qu'on connaît bien, que les consommateurs voient, mais par contre, c'est très difficile d'estimer ce que ça représente par rapport à la masse globale de produits de beauté.
Enfin, ça a quand même carrément changé notre façon de consommer. En réalité, le déstockage.
Oui, oui. Ça a un gros impact dans tous les domaines, mais sur celui de la beauté en particulier. Surtout depuis 4-5 ans, il y a une enseigne qui est arrivée que les Français connaissent bien parce qu'elle est arrivée en masse. C'est Action, qui a ouvert 500 magasins et qui a un très beau rayon d'hygiène beauté qui est assez grand. Mmh. Et on estime qu'il y a plus d'un million de Français qui ont quitté les supermarchés pour aller s'alimenter chez elle depuis qu'elle est arrivée.
D'accord, donc c'est un véritable phénomène de consommation. Quelle marque de cosmétiques peut-on trouver? Est-ce que je peux retrouver les cosmétiques traditionnels que j'achète d'habitude?
Ouais, vous avez vraiment toutes les marques.
Ah ouais,
vous avez
les marques de luxe et tout?
Alors oui, on peut en trouver, mais c'est vraiment des marques grand public en général qu'on trouve. Ouais. C'est quand même plus du Sanex, du Petit Marseillais, les marques de L'Oréal. On a des marques de coloration pour cheveux. Donc c'est des marques connues du grand public. Je pense que c'est aussi pour ça que ça marche, ça les rassure. Et puis vous avez quelques produits. Là, on s'interroge plus sur l'origine, la provenance. Ce sont des marques qu'on trouve en parapharmacie, chez les coiffeurs ou même dans les parfumeries. Et là, c'est vraiment minoritaire. Mais en tout cas, ça interroge sur la provenance des produits.
En termes d'économie, c'est super intéressant.
Ah bah oui, parce que c'est entre 20, 30, même 50%. Donc ça vaut le coup, quoi. Puis l'avantage par rapport aux promos du supermarché, c'est que la promo, elle s'applique sur un produit. Alors qu'en supermarché, pour avoir une réduction, en général, il faut acheter 6 flacons avec le même parfum.
Oui, alors que là, on a directement la réduction. Sur certains produits cosmétiques qu'on achète, c'est pas forcément écrit en français. On a l'impression que ce sont des produits qui viennent de pays européens.
Oui,
c'est une réalité.
Alors ça, oui, c'est une partie de l'enquête que vous verrez demain soir dans le Capital. C'est ce qu'on appelle le marché parallèle. Un déstockeur, pour trouver de la marchandise à bon prix, ne va pas se tourner vers la filiale parisienne du fabricant, mais va contacter la filiale grecque ou espagnole parce que là-bas, le produit est vendu moins cher, comme le pouvoir d'achat est plus bas, c'est vendu moins cher. Donc, les produits partent de Paris, vont en Espagne et reviennent. Donc, niveau écologie,
c'est pas super écolo,
c'est pas
ça, quand même. Hein. C'est pas super écolo, mais en même temps, ça explique les grosses remises.
Oui.
Bon. Le contenu de ces cosmétiques, est-ce que c'est justement le même que ceux qui sont en vente dans les grandes surfaces et dans les magasins spécialisés?
Alors, moi, j'ai fait un petit test. J'ai acheté une vingtaine de produits à la fois en grande surface et en magasin déstockage, discount.
Ouais.
Les 20 identiques. Sur les 20, il y en a quand même 17. C'est strictement identique ou quasiment identique, quoi. Donc
D'accord.
vraiment des différences mineures. Et il n'y en a que 3 qui avaient une différence plus importante, notamment des tensioactifs. Le tensioactif, c'est ce qui fait mousser le gel douche ou le shampoing.
Okay.
Donc là, c'était un tensioactif un peu plus irritant. Mais il faut savoir que c'est des produits autorisés quand même. C'est jamais des produits interdits en France parce que la liste des produits autorisés est la même en France et en Europe.
Voilà, c'est la norme européenne.
Voilà.
D'accord.
Donc 3 produits différents sur 20. Après, les gens
pourront juger. Part, quoi. Très bien. Sonia Esguignan, vous connaissiez ce genre de magasin?
Non, j'ai noté le nom de la boutique. Ça vous parle?
Oui, c'est hyper intéressant. Et vous, Armelle Lévy, vous connaissiez?
Oui, c'est vrai qu'il y a un vrai engouement des consommateurs et on y trouve tout public, des grands-parents, des jeunes mamans.
Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des nouvelles enseignes qui arrivent là et qui sont beaucoup plus plaisir, achat plaisir. Parce que jusqu'ici, le déstockage, c'était quand même un peu le gel douche familial, des trucs. Pas vraiment, on va faire du shopping pour se faire plaisir à soi. Alors que là, il y a une nouvelle enseigne que j'ai pu suivre dans mon reportage qui s'appelle Normal, qui arrive du Danemark. Il y a déjà 200 boutiques dans le nord de l'Europe. Là, c'est toutes les grandes marques de maquillage, du fond de teint, des vernis, des produits capillaires qu'on trouve chez le coiffeur. Et je pense que c'est aussi ce qui explique le succès de ces boutiques-là, c'est qu'on se fait plaisir, on se frustre sur beaucoup de choses dans nos achats au quotidien, et là, on se fait plaisir avec des produits de beauté à petit prix.
Voilà. Eh bien, le plaisir, on le poursuit dans un instant avec vous, évidemment, mesdames, sur l'antenne d'RTL. À tout de suite.
Jusqu'à 10h sur RTL. Nous voilà bien, Flavie Flamand. Nous voilà bien sur RTL, avec Flavie Flamand.
Sonia Esguignan va nous permettre de faire un grand ménage ce week-end dans notre cuisine en nous disant ce qui est indispensable en termes d'ustensiles et aussi ceux qui finalement sont parfaitement accessoires. Mais pour l'heure, on continue notre balade du côté du déstockage des cosmétiques.
Cheveux comme crème, une caresse bien mieux qu'un diadème.
Je veux qu'on me crème, chante Vanessa Paradis. Nous aussi, on veut qu'on nous crème, mais avec des crèmes et des cosmétiques déstockés, puisque c'est ce dont on parle avec vous aujourd'hui, Patricia Le Chevalier. On a vu, évidemment, les nouvelles enseignes, cette nouvelle façon de consommer des cosmétiques qui parfois viennent d'Europe. Donc, si vous tombez sur ces cosmétiques déstockés avec effectivement un packaging dans une langue étrangère, ne soyez pas inquiets. Ce sont les normes européennes. Donc, le produit sera peut-être sensiblement différent, mais finalement, ça ne changera pas grand chose. Et puis surtout, ça changera pas mal de choses en termes d'économie, car le déstockage, c'est forcément de grosses remises. Revenons à ces produits. Est-ce que je suis assurée que ce sont des produits neufs?
Ah oui. Ça, c'est, il y a aucun risque sur ça. C'est des produits neufs.
Ils sont emballés,
donc il y a aucun risque.
Est-ce que je peux aussi tomber sur des produits, je dirais périmés, ou alors en voie de péremption? Parce que c'est vrai qu'il faut le dire à nos auditeurs, les cosmétiques ont
c'est
une durée
crainte,
de vie.
Des consommateurs.
Bah, c'est-à-dire que si on achète, pardonnez-moi, mais un gros packaging, une grosse crème, et qu'en fait on se rend compte qu'il lui reste 3 semaines finalement de vie, c'est quand même problématique.
Alors c'est assez compliqué les dates de péremption. En général, il y a rien indiqué sur la date de péremption à partir du moment où c'est fabriqué. Donc, si c'est indiqué, c'est un petit sablier.
Oui. Et
ça veut dire à utiliser dans une période qui suit la fabrication. Mais en général, on trouve plutôt un autre petit logo, c'est un petit pot de crème.
Ouvert.
Ouais. Et donc, c'est à partir de la date d'ouverture. Donc, le décompte démarre à partir de ce moment-là.
D'accord. Donc, quand vous voyez que votre crème, vous voyez ce petit pot de crème, c'est un petit logo tout simple, vous avez l'impression que c'est un petit pot de crème ouvert et que vous voyez 6 mois ou 12 mois, vous savez que c'est la durée de vie de votre produit une fois ouvert.
Mais comme on jette le paquet, en général, moi je vous conseille de prendre une étiquette et sous le pot vous mettez maximum décembre 2020.
Je me suis toujours demandé si, parce que c'est vrai que les dates de péremption, Sonia Esguignan, dans la cuisine, c'est quelque chose. On a déjà fait des émissions là-dessus parce qu'il y a certains produits qui peuvent durer plus longtemps. Bon, ça c'est une chose. Et j'invite nos auditeurs à aller sur les replays de Nous Voilà Bien sur RTL.fr. Mais sur les cosmétiques, en fait, je trouve ça assez compliqué d'accepter, même psychologiquement, l'idée qu'un produit ne puisse, il sera plus efficace, mais il ne sera pas néfaste.
Il sera moins efficace. La texture peut changer, mais pour le maquillage, notamment les yeux, il faut quand même faire attention. Il peut y avoir une contamination microbiologique. Donc, notamment le mascara, il ne faut pas trop jouer avec.
Et puis, en termes de contamination, je pense qu'on a la dose en ce moment. Oui. Armelle Lévy.
Crème solaire également.
Alors attention, crème solaire, vous avez raison, Armelle Lévy. Là, on ne rigole pas avec ça parce qu'effectivement, c'est censé nous protéger. Ça peut devenir dangereux s'il n'y a pas de protection. En fait, ce sont des super affaires, ce que vous êtes venu nous raconter, Patricia.
Alors, en général, toujours, on peut se dire que sont de bonnes affaires, mais il y a quand même deux nuances que je voudrais apporter. La première, c'est qu'on ne trouve pas forcément la marque qu'on aime et on n'a pas forcément le numéro du fond de teint ou du vernis qu'on porte habituellement.
Oui, c'est donc, ça, c'est qu'on nous impose finalement les produits qui sont disponibles.
Il faut être disposé à saisir les opportunités. Il ne faut pas y aller pour faire son shopping et reproduire son shopping qu'on fait ailleurs dans ces magasins-là. Et l'autre qui est quand même important, je pense, pour ces achats, c'est que le côté plaisir est quand même moins présent parce que les boutiques sont moins agréables. On n'a pas de conseils de vendeuses, il n'y a pas toujours de petits testeurs, donc on a du mal à voir la couleur. Donc, on fait des économies, mais on perd un peu en termes d'expérience d'achat, je pense.
Voilà, mais c'est peut-être amené aussi à
évoluer.
À évoluer, évidemment, comme vous le disiez, avec ces nouvelles enseignes qui deviennent véritablement tendance. Merci beaucoup. Comment sont vos cuisines, mesdames? Est-ce qu'elles sont surchargées en bazar? Alors ça, on en a une qui peut vous aider à ranger, mais est-ce qu'elles sont surchargées en termes d'ustensiles?
Ah oh oui, quand Armel. Même. Oui, oui, je réfléchis maintenant, oui, effectivement.
Moi, tous les au-dessus gadgets, je craque.
Eh oui. Eh bien voilà, Sonia Esguillon va nous permettre de faire le grand rangement ce week-end. Vous entendez le générique de Top Chef, et oui, Top Chef qui est de retour le mercredi à 21h sur M6, un rendez-vous incontournable pour les amoureux de la cuisine. Sonia, justement, vous êtes cuisinière, auteure, journaliste, et c'est un jour, en sortant de ce studio, que vous nous avez dit, non mais il faut absolument parler de ça. Et ça nous a semblé tellement évident qu'on avait envie de vous recevoir aujourd'hui. Merci d'être venue
merci
jusqu'à
pour
nous.
Cette émission.
Alors, jusqu'à quel point les ustensiles que l'on utilise sont-ils importants quand on cuisine? En fait, en deux mots, est-ce que je peux cuisiner avec rien?
Alors, on peut cuisiner avec rien, mais on fait des choses un petit peu... Moi, il m'arrive très souvent, par exemple, d'aller dans des maisons de location. Je ne transporte pas tout mon matériel quand je vais en maison de location, bien que quelquefois, j'apporte deux, trois petites choses.
Oui, parce que les cuisiniers, en général, se trimballent avec leurs couteaux.
Très souvent, je me promenais avec les couteaux. Pourquoi? Parce que les couteaux, c'est vraiment l'élément essentiel pour la cuisine, et surtout parce qu'ils sont aiguisés. Parce que la plupart du temps, si je viens chez vous, je suis sûre que si j'essaye les couteaux, ça va être une catastrophe. Parce que... Vos couteaux sont certainement des bons couteaux, mais vous les jetez dans un tiroir. En fait, il ne faut pas les mettre avec d'autres ustensiles parce que quand ils se tapent entre eux, en fait, vous abîmez le fil de la lame et l'ustensile est moins aiguisé, le couteau fonctionne mal et donc la cuisine est moins bien faite. C'est vraiment une réalité.
Alors, la base de la cuisine, donc, c'est le couteau.
C'est d'avoir déjà au moins deux ou trois couteaux. Alors, il ne faut pas avoir... souvent, on me dit, oh là là, je me suis acheté une mallette de couteaux. Oui, mais enfin, vous n'êtes pas cuisinier professionnel, vous n'avez pas besoin de tous les couteaux. C'est rare d'avoir besoin d'un désosseur quand on fait à manger tous les jours. On peut demander au boucher...
Pour désosser son mari.
Quelquefois, ça peut servir. Mais en général, on a besoin de deux à trois couteaux selon sa technicité en cuisine. Ouais. Déjà, on a besoin d'un bon éminceur. Un éminceur, qu'est-ce que c'est? C'est un couteau avec une lame large qui vous permet, comme son nom l'indique, d'émincer. Et vous avez besoin d'un couteau d'office. C'est un couteau petit. C'est le petit couteau à tout faire.
Petit couteau de cuisine avec des manches en bois.
Si vous cuisinez un petit peu plus, vous avez besoin d'un filet de sol. Qu'est-ce que c'est un filet de sol? C'est un couteau qui a une lame longue, effilée et souple. Ça, c'est par exemple si vous avez envie de couper des poissons, etc. À part ces couteaux-là, franchement, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'ustensiles. Alors, quand vous les choisissez, moi, je vous conseille de ne pas céder au design, à la beauté du couteau, etc. Essayez-le. C'est vraiment comme un accessoire
comme un stylo,
de mode ou un stylo ou autre. En fait, moi, j'avais acheté des couteaux avant de devenir cuisinière professionnelle que j'ai changé parce qu'en fait, j'ai adapté la taille du couteau, le poids et surtout la texture du manche. On le prend en main, on voit si on arrive à bien découper. Sinon, c'est dommage, on ne va pas s'en servir beaucoup.
Alors, des couteaux pour gaucher, pour droitier.
Il y a des couteaux pour gaucher et pour droitier, donc ça c'est très important. Aussi bien les accessoires aussi. Par exemple, pour éplucher, il y a deux écoles. Soit vous êtes couteau économe, soit vous êtes rasoir à légumes. Eh bien, pour ces deux ustensiles, vous pouvez avoir des couteaux adaptés, des ustensiles adaptés pour.
Alors, vous venez de dire un truc, le rasoir à légumes, on va se retrouver dans un instant, vous allez me dire ce que c'est parce que moi je ne connais pas. Tout de suite sur RTL.
RTL.fr Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
Tout le monde se demande, mais c'est quoi un rasoir à légumes? Sonia Esguillon va nous dire ça tout de suite. Vous les entendez, ces petits couteaux? Qui tape sur la planche à découper. On parle des ustensiles avec vous, Sonia Esguillon. Alors, c'est fou parce que je ne savais pas ce qu'était un rasoir à légumes et grâce à vous, je viens d'apprendre que j'ai un rasoir à légumes.
Exactement,
c'est quoi un rasoir à légumes?
La tribu des rasoirs. En fait, pour éplucher, il y a deux solutions. Ouais. Soit vous utilisez le couteau économe, c'est un peu le couteau de mémé, qui a un manche en bois en général, avec une lame qui est dans la même lignée que le manche. Et sinon, il y a le rasoir à légumes qui ressemble effectivement à un rasoir.
C'est vrai, vous avez raison.
La lame est donc perpendiculaire Et c'est vraiment un autre geste. Alors après, il n'y a pas un ustensile qui fonctionne mieux que l'autre. C'est vous, par rapport au geste que vous aimez faire, vous pouvez faire, vous pouvez choisir ce fameux rasoir à légumes.
Je penserai à vous ce soir en préparant mes courgettes. Vous êtes plutôt rasoir, Patricia?
Alors non, moi je suis économe, mais avec la lame qui bascule en
oui,
fait.
Oui, qui bouge. Qui comment bouge. Elle se la pète?
Non mais attends. Mais ça change tout, parce que je détestais éplucher mes légumes avant, et depuis, ça se fait hyper facile.
Armelle Lévy, vous êtes rasoir?
Non, je suis plutôt économe.
Vous devriez vous mettre au rasoir. Moi, je trouve ça super pratique, le rasoir. Et ça ne coûte rien. Ce qui est important de dire, c'est qu'il y a certains ustensiles, en fait, qui ne vont absolument pas nous coûter une fortune.
Non, complètement. Ce qui est important, c'est de bien choisir le bon ustensile. Et puis surtout, tout à l'heure, vous parliez de vos cuisines surchargées. Videz un peu la cuisine pour avoir de la place pour cuisiner. Et surtout, à chaque fois que vous allez acheter, surtout pour les robots, achetez en fonction de ce que vous allez cuisiner. N'achetez pas un robot parce qu'il est extraordinaire et qu'on vous a dit qu'il mixait, machin. Le robot, il va écouter votre doigt, hein. Donc, il faut vraiment que vous choisissiez vos robots en fonction de la cuisine que vous aimez faire, du nombre de convives à la maison, etc.
Oui, c'est ça. Ne pas prendre non plus des robots familiaux quand on est à deux.
Et trop petit, c'est bête aussi parce que du coup, vous n'allez jamais avoir le bon robot avec la bonne capacité et vous allez multiplier les accessoires.
Alors, même si on doit faire, je vais dire, du sur-mesure en fonction du foyer et du nombre de personnes dans le foyer, Sonia Esguignan, quels sont les indispensables, je dirais, selon vous, dans une cuisine? En deux mots, qu'est-ce qu'on balance et qu'on ne balance pas, pardon, que l'on recycle, que l'on donne, pas forcément que l'on jette.
Des brocantes,
ça, c'est important. Non, mais c'est important. On ne jette pas, mais on trouve une deuxième vie pour ces objets-là. Mais qu'est-ce qu'on garde?
On vire déjà tous les petits gadgets, etc.
Moi, ça, c'est pour Patricia.
Chaque fois, je vais chez les gens, je vois des ustensiles incroyables, un ustensile pour peler l'ail. Je me dis, mon Dieu, s'il faut juste un ustensile pour peler l'ail.
Tu m'étonnes. Pardon. Vous avez le truc pour couper l'avocat aussi en tranches ou pas?
Non,
bien sûr. Vous savez que pour peler l'ail, en fait, vous prenez la lame du couteau. Vous appuyez un petit peu, l'ail casse et vous le pelez en deux secondes. Ouais. Après, pourquoi pas? Parce que souvent, ces ustensiles sont jolis.
Mais c'est une tannée à laver en plus.
Ah, mais oui, voilà. Déjà, ça va vous prendre beaucoup de temps. Non, alors déjà, on vire tous les petits gadgets, ustensiles divers qui ne servent qu'à une seule fonction. Et puis après, on choisit donc nos fameux trois couteaux, deux, trois ustensiles indispensables comme l'épluche légumes, et on choisit un ou deux robots. Il faut pouvoir mixer. Alors aujourd'hui, il y a des robots absolument formidables. Moi, par exemple, je voulais vous parler d'un robot plongeant quand on n'a pas beaucoup de place. Vous savez, ces robots qui permettent de faire la soupe. Donc en fait,
oui,
c'est un robot plongeant.
Moi, c'est ce que j'ai, c'est un manche pour
c'est
faire la soupe.
C'est génial. Et maintenant, il y a des robots plongeants qui ont à l'extrémité des accessoires pour mixer, monter une mayonnaise, faire des blancs en neige. Ça prend la taille d'une grosse trousse. Permet d'être rangé dans un tiroir parce que très très important, si vous enfermez un robot dans un placard, vous ne vous en servirez jamais parce que vous allez être déjà déstabilisé. Enfin, ça va vous prendre un temps de sortir, le brancher,
ça
trouver de la
quoi.
Place, etc. Vous allez trouver un autre système et ce robot ne sert à rien. Donc dans la mesure du possible, il faut acheter un robot que vous pouvez avoir presque sous la main. Ce robot plongeant, il se range dans un tiroir, c'est absolument formidable.
Concernant les poils, quel revêtement privilégié? Moi, j'avais acheté une série de poils presque professionnels et en fait, tout accroché au fond, enfin, c'était galère. Mais
professionnel, ça peut être déceptif parce que vous ne faites pas la cuisine qui va avec. C'est-à-dire
mais qu'est-ce que
souvent...
vous en savez, vous, Sonia Esguignan?
Si vous me dites que ça accroche déjà, si vous me dites que ça accroche, c'est qu'il y a un problème. C'est-à-dire que très
elles
souvent, les cuisiniers font chauffer, extrêmement chauffer les poils. Ça fait peur aux gens, en fait. On fait chauffer la poêle très très longtemps, ensuite on met un tout petit peu de gras, on fait saisir par exemple une viande, on met ça au four, etc. Donc il faut vraiment, si on cuisine un petit peu, que l'ustensile soit multi source de chaleur, pas trop lourd toujours, et adapté. C'est vrai que par exemple une poêle, si c'est pour une utilisation ménagère, on choisit la poêle la plus facile d'approche. Ouais. Parce que sinon, on va être découragé à l'utilisation, en fait.
D'accord. Est-ce qu'on sait exploiter toutes les possibilités que nos ustensiles nous offrent?
Non. Parce que, en fait, en général, moi, j'aime bien aller un petit peu plus loin parce que c'est ma façon, en fait, de voir le quotidien. Mais très souvent, l'épluche légumes, ça épluche les légumes. Point. Alors que
moi, je fais
avec un épluche légumes, on peut faire des spaghettis. Là, aujourd'hui, je vous ai amené une petite tartelette. En fait, avec les courgettes, les carottes, les radis, les radis longs, etc. En fait, on va faire des lamelles. Elles vont cuire en très, très peu de temps. Elles sont simplement blanchies une minute dans de l'eau bouillante salée. Et ensuite, présentées en serpentin pour être mises dans la tarte. Là, c'est bluffant. Et vous n'avez utilisé qu'un rasoir à légumes ou un couteau économe. C'est pour montrer en fait que il faut s'intéresser au quotidien différemment. Et c'est vrai qu'un ustensile peut faire tout un tas de choses. C'est pour ça que quand on va choisir un robot, on voit les principales fonctions du robot et on explore, parce qu'il y a un petit livret qui n'est pas très rigolo. Quelquefois, on a des recettes intéressantes, donc c'est bien de feuilleter le petit livret un petit peu, juste pour voir quelles sont les possibilités et après se lâcher pour faire des recettes en famille.
Ça s'entretient, les ustensiles ? Alors, ça, vous nous disiez par exemple que les couteaux, il faut les ranger et pas les mettre tous.
Alors, les couteaux, soit on fait comme les cuisiniers, on les met dans un tiroir avec un torchon, comme ça les lames ne s'entrechoquent pas entre elles. Si possible, on donne un petit coup de aiguiseur, donc avec le fusil, pratiquement au moins tous les 2-3 jours. Si on ne sait pas faire le geste, on regarde un tuto sur internet, il y en a plein. Et si on a la possibilité, ça change tout, tous les ans ou tous les ans et demi, on les fait vraiment aiguiser. On va dans un magasin spécialisé, on les fait aiguiser.
Des bisous.
Bah oui, on s'embrasse quand même. Non mais attendez, là, ça nous manque. Ça vous manque pas de...
Terriblement.
On fait des checks de coudes là toute la journée. On peut pas s'embrasser, on peut pas se prendre dans les bras. Bah nous, on vous embrasse. Merci beaucoup Armelle Lévy d'avoir accepté notre invitation.
Merci.
On vous croise régulièrement dans les couloirs d'RTL et on vous retrouve sur l'antenne puisque vous êtes journaliste service éco-conso. À la prochaine. Merci Patricia Le Chevalier. Je rappelle donc que vous faites partie de l'équipe de Capital sur M6. Merci à vous Sonia Esguignan. Je vous embrasse. Je vous fais des bisous. Et je rappelle votre livre justement du bon usage des ustensiles coécrit avec Martine Camilleri aux éditions de L'Épure. Si vous n'avez pas tout retenu de cette émission, rendez-vous sur le replay sur rtl.fr et sur nos réseaux sociaux. Je vous souhaite un très bon week-end malgré tout. Je vous donne rendez-vous lundi dès 14h30 sur RTL pour En effet pour s'entendre. C'est le magazine du partage et de la réflexion. Et puis la semaine prochaine, dans Nous voilà bien, on s'intéressera à la sécurité des paiements en ligne, au jardinage avec l'arrivée du printemps, youpi, et on se demandera s'il est mieux du boire du thé ou du café. Allez, passez un très bon week-end à l'écoute d'RTL, je vous embrasse, prenez soin de vous.